Comment font-ils les saints pour être si joyeux? Ils lisent la Bible, ils ont la grâce d'y croire. C'est tout. Et alors, non seulement, et ce sera la conclusion, non seulement elle essayait de vivre, et elle vivait cette joie tout au fond de son cœur, mais elle essayait de la faire transparaître sur son visage. Car elle savait qu'elle avait sur son visage un pouvoir dictatorial. Les muscles de notre visage, nous pouvons les commander. Nous ne pouvons pas commander à notre affectivité, mais nous pouvons commander à nos muscles, et donc toute seule dans sa chambre, dans les escaliers, elle essayait de dire à Jésus, « Jésus, tu sais, puisque mon cœur est en paix tout au fond, je te souris. Je te souris pour te faire plaisir. » Et qu'est-ce qui l'aidait à le faire? Cette persuasion qu'elle pouvait réjouir le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui disait qu'elle pouvait réjouir le cœur de Dieu? Où est-ce qu'elle a vu ça? Comment l'a-t-elle compris? Comment a-t-elle eu cette intuition? Elle n'a pas eu d'intuition, elle l'a lu dans la Bible. Elle l'a lu dans le Cantique des Cantiques. Que le Seigneur est chaviré par un seul cheveu de son épouse. Puis c'est Seigneur, puisque tu le dis, ça doit être vrai. Moi, je n'ai pas l'impression que quand je fais quelque chose, ça te fait sourire. Mais puisque tu le dis, c'est vrai. Mais vous voulez trop sentir, mes chers amis. Et vous ne sentez rien. Alors parfois, vous êtes déçus d'une retraite, j'ai rien senti. Il n'y avait rien à sentir, il y avait à croire, à lire, à relire. Seulement, nous vivons dans une époque où par réaction contre un intellectualisme terrible, il y a toute une poussée de sentimentalisme non moins terrible. Ce qui fait que même les hommes politiques n'osent plus dire à la télévision qu'ils ont des convictions, qu'ils ont des idées, qu'ils ont des jugements, parce que leur impresario leur a dit « ça, ça ne passe pas aux yeux du public ». Donc que vous soyez de droite ou de gauche, vous dites simplement « j'ai le sentiment ». J'espère bien que nos hommes politiques nous gouvernent autrement qu'avec des sentiments. Seulement, vous voyez, le français moyen ne veut pas avoir affaire à des gens qui aient des convictions, qui aient des idées. J'ai le sentiment. Et alors nous, les chrétiens, nous risquons de tomber dans le panneau. J'ai le sentiment que le Christ est ressuscité. J'ai la conviction que le Christ est ressuscité. Alors c'est vrai qu'il y a une expérience chrétienne, ô combien. Il y en a même qui se convertissent uniquement avec une expérience chrétienne. Mon Dieu, j'ai beaucoup d'amis qui ont expérimenté la présence du Christ ressuscité dans leur vie d'une façon extraordinaire, au-delà de tout raisonnement. Ça, c'est vrai. Et moi-même, j'ai une expérience chrétienne. Moi-même, j'ai expérimenté, en quelque sorte, la présence de Jésus vivant dans ma vie. Mais vous savez que pour être sûr que Jésus est ressuscité, cette expérience ne suffit pas. Et c'est pour ça que nous fêtons tellement les apôtres. Moi, je n'ai pas vu le Christ ressuscité. J'ai expérimenté le Christ vivant. Qu'est-ce qu'il y a expérimenter le Christ ressuscité? Pierre, Paul, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Simon, Thaddée, eux, ils l'ont vu. Ils l'ont même touché. Une foi chrétienne plénière, c'est une foi qui ne se contente pas de sentir, d'expérimenter la présence du Christ sur tous nos chemins, mais qui recourt à l'expérience faite sous Ponce Pilate, en Palestine, du Christ ressuscité. Pour avoir une foi plénière, nous sommes obligés de passer par ce détour de l'histoire. Car Jésus ressuscité, on ne l'expérimente plus. On expérimente le Christ vivant, mais pas le Christ ressuscité. D'où l'importance du témoignage des apôtres. Tous les saints ont beaucoup fêté les apôtres. Bon, regardez la basilique de Lisieux. Au cœur de la basilique, qu'est-ce qu'on a mis? Sur les quatre piliers qui soutiennent le dôme, les témoins de la résurrection. C'est les piliers de notre foi, les pilotis. Les témoins privilégiés, comme disent les actes des apôtres, qui ont eu une expérience que nous n'aurons jamais. L'expérience des chrétiens d'aujourd'hui n'est pas l'expérience des apôtres. C'est grâce à eux que nous savons que le Christ est ressuscité des morts, et pas seulement qu'il est vivant dans notre vie. Alors cette conviction de la présence du Christ ressuscité dans sa vie, Thérèse essaye de l'exprimer sur son visage. « Je tâche d'avoir l'air contente et surtout de l'être », écrit-elle dans son dernier manuscrit, alors qu'elle est plongée dans la nuit. Je vous signale d'ailleurs que cette nuit, je ne l'ai peut-être pas dit assez hier, est incohérente. Pourquoi? Parce qu'elle est terriblement tentée de douter de l'existence du ciel. Mais Jésus ne lui fait pas de difficulté. Elle court vers Jésus. La Sainte Vierge ne fait pas de difficulté. Un agnostique, C'est tout qui lui paraît incertain. Ça porte sur l'ensemble. Tandis que chez Thérèse, ça porte sur le ciel. Et sur la question de savoir, est-ce que je plais davantage à Dieu? Mais par ailleurs, elle n'a pas trop de difficultés à penser que Jésus est là. Elle se rend bien compte que c'est incohérent. Si elle croit en Jésus, pourquoi a-t-elle tant de difficultés sur le ciel? Elle ne comprend pas, mais c'est Satan. C'est Satan. Et c'est vrai que Thérèse vérifie bien ce que nous comprenons mieux maintenant, qu'il y a des gens qui peuvent connaître des nuits mystiques terribles, non pas pour se préparer au mariage spirituel, comme semble le dire Thérèse d'Avila, mais après le mariage spirituel. C'est-à-dire qu'ils participent à l'agonie du Christ, à la passion du Christ, non pas pour se purifier, mais pour le salut du monde. Car il semble bien que Thérèse ait connu le mariage spirituel quand elle a connu ce trait de feu qui a suivi son acte d'offrande en 95. Or, elle va avoir une agonie terrible qui va durer 18 mois. Bon, c'est vrai que ça va contribuer à purifier sa foi, mais c'est surtout, elle le sait bien, pour les pécheurs, pour sauver le monde. Elle se préparait à d'éventuelles persécutions religieuses en s'exerçant à souffrir joyeusement lorsque je souffre dans mon corps, lorsque je me donne la discipline. Au lieu de laisser mon visage se contracter par la douleur, je fais un sourire. Un sourire que personne ne regardait. Seul Jésus. Nulle hypocrisie dans ce sourire, puisqu'il est l'expression d'une joie très réelle dans le fond du cœur, une joie fondée sur la proximité de Jésus. C'est pour la même raison qu'elle avait recopié à la fin du livre des Évangiles, qu'elle portait constamment sur elle, « Seigneur, vous m'êtes comblé de joie par tout ce que vous faites. » Et elle aimait beaucoup Théophane Vénard, ce petit martyr du Vietnam, parce qu'il était très joyeux, même en récréation. On disait de lui, « Cet enfant semblait né avec un bouton de rose sur les lèvres et un oiseau pour chanter à son oreille. » Vous savez, c'est une grande tradition ce que je vous ai dit ce matin. Saint François de Sales disait, « Je suis comme un oiseau qui chante dans un buisson d'épines. » Un buisson d'épines, ma vie est pleine d'épines, mais j'essaye de chanter quand même. Et Didier de Coin, ce romancier converti, « Je suis un chrétien de joie, et je crois que si j'étais devenu moine, j'aurais choisi un nom comme frère Didier de la Sainte Joie du Christ. J'en ai assez des chrétiens tristes ou compassés. » Mère Teresa, que rien jamais ne vous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Joseph Follier, si tu veux me ravir ma joie, viens la prendre dans les mains de Dieu. Saint François d'Assise, ta misère, elle regarde le Seigneur. Les autres, ils attendent ta joie. Philippe Néri, ce grand saint plein d'humour de l'Italie, fondateur de l'oratoire, les grises mines ne sont pas faites pour la joyeuse maison du paradis. Roger Schutz, prieur de Thésée, si simplifier ton existence venait à activer une mauvaise conscience du jamais atteint, alors fais une pause, interroge-toi. La jubilation, non pas les gémissements, que tout devienne festif autour de toi. Ce peu que tu as, dispose-le avec imagination pour égayer la monotonie des jours. Et rappelez-vous cette parabole inventée par Madeleine Delbrel pour un 14 juillet. Faites-nous vivre notre vie, Seigneur, non comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin, où votre rencontre se renouvelle, comme un bal, comme une danse, entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour. Seigneur, venez nous inviter à la danse. Ce thème de la danse est essentiel dans la Bible. Allons danser comme des gosses, chante Odette Verkuis. Nous sommes faits pour danser déjà sur terre la joie que Dieu veut nous mettre dans le fond du cœur, mais une joie compatible avec l'orage, avec la tempête, avec le remue-ménage, avec la tristesse, avec le manque de courage, avec le ras-le-bol, avec la déception, avec l'antipathie, avec les tentations terribles, car une tentation n'est jamais un péché. Vous avez des gens qui ont des tentations terribles et qui ne font même pas une imperfection. C'est vrai qu'on se demande pourquoi le Seigneur ne calme pas davantage la tempête qui gronde dans leur cœur au niveau de la sensibilité. Mais le Seigneur, mystère énorme, veut que ces âmes éprouvées participent à sa divine agonie. Vous savez que l'une des pages préférées de Thérèse, c'était l'agonie. l'agonie du Christ, comme celle, c'était aussi la page préférée de Bernanos. Et l'héroïne de son dernier ouvrage, Dialogue des Carmélites, c'est Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Alors sachez que si vous participez à une agonie, c'est sans doute pour que les autres plus faibles ne l'aient pas.